abattu qu'il est offusqué. Il est offusqué de ce qui se passe dans le monde. Il est offusqué de ce qu'il entend du peuple de Dieu. Et il peut. Alors Habacuc, pour ceux qui ont du mal, si vous allez au commencement du Nouveau Testament, et là vous tournez sur la gauche, vous allez avoir toute la série des petits prophètes juste sur votre gauche, et vous allez tomber avec Habacuc. C'est pas un prophète qu'on lit très souvent. Et je vais faire court, il se pose cette question. Pourquoi ? Pourquoi Dieu ne punit pas la méchanceté ? Pourquoi Dieu ne punit pas la guerre ? Pourquoi Dieu ne punit pas la violence ? Pourquoi Dieu ne punit pas la souffrance ? Ou ceux qui imposent la souffrance, évidemment. Hein. L'injustice. Notre monde en est plein, n'est-ce pas ? Ceux qui nous entourent, notre société, on l'a encore vu récemment avec les manifestations à Paris, les casseurs, ceux qui n'ont pas de conscience des autres. Comment un Dieu saint peut-il tolérer le mal et l'injustice ? Et il a un autre problème, Habacuc, au point de se servir d'une nation cruelle pour accomplir ses saints. C'est-à-dire pour punir parfois son peuple. C'est un message de l'Éternel. Ou au moins que l'Éternel communiquait pour qu'il le communique au peuple. Mais c'est un dialogue, comme je l'ai dit, personnel entre Habacuc et le Seigneur, où le prophète pose des questions. On va lire à partir du verset 1. Jusqu'à quand, Éternel ? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Si la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Pardon. Et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond, impétueux, qui traverse la vaste étendue le pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. Et lui, de lui seul, son droit et sa grandeur. Les chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout le peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Il assemble des prisonniers comme le sable. Il se moque des rois. Et les princes font l'aube de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, l'amoncelle de la terre, et les prend avec leur ardeur redouble. Il pour sa marche. Il se rend coupable. Sa force lui voit. Voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint ? Nous ne crons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer les jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger le châtiment. Vous vous rendez compte ? La lourdeur de ce qu'il y a sur Habacuc. Il voit des choses. Et finalement, il dit, « Dieu, je croyais que tu étais capable de régler ça. Je prie avec fidélité. Mais tu es sourd, tu n'entends rien. Je pleure, je verse des larmes, tu ne vois pas. Je suis offensé, écrasé. Et toi, tu fais quoi ?» Et Dieu lui donne la solution. Et elle est pire que la question. Il dit, j'ai suscité un peuple horrible pour régler les comptes à tout ça. Et avec lui, c'est pas possible. C'est pas possible. On a l'impression, Moi, j'ai l'impression que quand je regarde la violence, quand j'entends des choses, ou quand je fais des choses, de dire « Dieu, il a pas vu ». Vous savez, on a cette belle phrase humaine « Pas vu, pas vu ». Et tout à l'heure, notre frère Patrick l'a dit, même quand je pense, Dieu, il sait. Alors, pas vu, pas pris avec Dieu, pas possible, c'est pas français. Dieu est un Dieu incroyable. Un Dieu qui est souverain. J'avais intitulé mon message « Un Dieu qui purifie ». On va chanter « Purifie mon cœur ». Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ah, et nous purifier de toute iniquité. On a un Dieu qui purifie. On a un Dieu qui nettoie. Mais il nettoie pas en surface. Vous savez, il prend pas plis pour enlever juste la poussière. Il retombe 2 minutes après. Il nettoie au fond, il nettoie en profondeur. Et parfois, malheureusement, il est obligé d'utiliser les grands moyens. On croit qu'on est passé à l'as, qu'on n'a pas été vu, qu'on n'a pas été pris. Et on dort tranquille sur nos lauriers en disant « Le Seigneur a rien vu ». Mais on peut pas cacher les choses à Dieu. Pillage, violence sont devant moi. Il y a contestation, dispute. Moi, je trouve tellement intéressant de lire Habacuc, j'ai l'impression voilà, que je lis Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Je dis, vous êtes pire que le monde. Il y a des choses qui se passent parmi vous qui sont pires que le monde. Et moi, j'ai l'impression que quand je lis l'Écriture, le cœur du peuple, il n'a jamais changé. Aujourd'hui, qui disons qu'il y a un nouveau cœur, une nouvelle pensée, un nouveau moi, on est à peu près comme le monde. Alors, j'aimerais passer au travers de ces questions que se pose Habacuc pour nous laisser un message. Et c'est un message que j'ai pris pour moi. C'est pas un message que j'ai pensé en avance, en disant, tiens, je vais leur dire ça, ils vont bien écouter. Seigneur, pourquoi laisses-tu faire ces versets 2 et 3 ? Pourquoi laisses-tu faire sans intervenir pour juger ? Quand on voit quelque chose d'inacceptable, d'incroyable, de violent, de répulsif, c'est quoi notre réponse ? On s'en va en disant, bah oui, mais c'est la vie, hein. C'est la vie. Quand on regarde la télévision, le cinéma, la violence, ça fait partie de la vie. Et quand on est offusqué, on dit oui, mais enfin quand même, c'est la vie. Non, la violence, ça n'a jamais été la vie. Dieu ne nous a pas créés pour être des gens violents. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les deux premiers hommes? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Adam et Ève leur avaient appris quand ils étaient petits, alors tu tueras ton frère? D'accord? Non? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'un a tué l'autre. Quand Habacuc est dans Juda, dans Jérusalem, que les méchants prospéraient, que le droit des justes était bafoué, qu'ils étaient écrasés, tués, et que Dieu semblait même protéger ceux qui faisaient ces choses, qui les récompensaient éventuellement leur fidélité dans la violence. Habacuc ne peut pas tenir. Et moi je dis, avec notre monde de violence, justement, on devient un petit peu éteint. On voit la violence dans la rue, on voit la violence au cinéma, on voit autour de nous nos voisins, on voit dans les maisons. Mais quelque part, on devient un petit peu anesthésié. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie autour de moi. Scandale de pédophilie. Problème d'adultère. Meurtre. Violence. Coup. Injustice. Un frère présente un autre frère devant la loi. L'attaque. C'est toute la Bible qui parle de ça. Et aujourd'hui, on pense que là, Dieu, lui, il est insensible à ça. Il est au-dessus, il dit, le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Mais Dieu, il punit pas. il ne jugera pas. C'est pas la réponse que tu veux. Le Seigneur lui répond au verset 5 et 6. Le remède va être pire que le problème. Démolition. Tempête. Ça nous dépeint, ça nous pousse encore plus. La réponse ne lui plaît pas du tout. Verset 6, il dit, « Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais au jour une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Je vais susciter un peuple qui va vous punir. Parce que finalement, vous ne craignez pas. Parce que vous ne craignez pas Dieu. Dieu c'est papy bon Dieu. Pas vrai? C'est papy, il donne des gâteaux, il donne des bonbons. Hein, on n'a été pas gentil, viens, on va te revoir plus, mon chéri. C'est pas ça? C'est un peu ça, malgré ça. On a un Dieu qui a fait des bêtises, bon, il va pardonner. C'est un Dieu de grâce. Je fais pas ce que je dois, mais c'est pas grave. Non? Et nous, chrétiens, de temps en temps, c'est un peu notre pensée. Hein. On vient vers lui le soir, on dort mieux. Bon, écoute, je voudrais passer une bonne nuit. Donc je te demande pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui, puis je te demande pardon déjà de ce que je vais faire demain. Comme ça, je vais... Non ? Aux États-Unis, on a cette formule. Je ne sais pas si on dit non, on pleurait, mais dans le nord des États-Unis, le matin, souvent, quand on se réunit avec les pasteurs, on y va déjà demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on va faire de travers. Comme ça, il viendra de l'avance. Mais non. Ma relation avec Dieu, c'est cette relation que Habacuc a. Et je demande à Dieu que mon cœur souffre devant la violence. Que mes yeux ne se réveillent pas. Que mes oreilles, quand ils entendent des cris, ne disent pas « c'est pas grave ». C'est pas grave. Dieu ne nous a pas créés pour être des êtres violents. Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous a donné un mandat, c'est de nous d'aimer Dieu. Et d'aimer nos prochains comme soi-même. Et pire que ça, il nous a demandé d'aimer nos gênants. Ouais, pourquoi il a mis ça dans le... Je me disais, ma fille, ce matin, je vais là-haut, les enseignants, quand même. C'est exagéré. Regardez. Pourquoi Dieu permet autant de mal d'exister? Même au milieu des crimes, sans intervenir, sans punir. Pourquoi me fais-tu voir le mal? Et regardes-tu l'oppression? On pourrait utiliser le mot violence pour ceux qui extorquent les biens, pour ceux qui harcèlent, pour les pour ceux qui brûlent, pour nos mots qui ne devraient pas se tenir dans notre bouche. D'accord. Quand je relis le sermon sur la montagne, on a le livre de la loi, et on le trouve dans le chapitre, dans le livre de l'Exode, hein, la loi, tu ne tueras pas. Puis on se dit, on n'est plus sous la loi. C'est vrai. Sauf quand je lis Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, bah, je préférerais être sous la loi quelque part. Ça serait plus simple. Parce que dans Matthieu 5, 6, 7, il dit, je te demande pas de tuer quelqu'un, je te condamne pas parce que tu mets un grand coup de couteau à quelqu'un, mais parce que tu as quelqu'un imbécile. Ah ouais? Ça, c'est le tuer. Et quand il baisse tous les textes, en fait, on s'aperçoit que ma relation avec les autres, mes responsabilités de père, mes responsabilités de chrétien, mes responsabilités de pasteur, un jour ou l'autre, mes amis, un jour ou l'autre, je vais avoir à prendre des comptes. Vous savez, nous, on ne sera pas jugés, nous, chrétiens. Ça, c'est biblique. On ne sera pas jugés pour savoir si on va au ciel ou pas. Ça, on est écarté de ça. Par contre, ça, on n'en parle pas souvent. Mais on va être jugés sur nos actes et sur la façon dont on aura notre vie. Et là, je vais passer au bureau. J'ai dit une dizaine. Yo, j'ai deux mots à dire. Sûrement, il en aura deux, à mon avis, plus que deux. Je pense que c'est pas tout. La deuxième question qui se pose, je l'ai perdue. La deuxième question, elle se trouve au verset 12 et 13. Il dit, « Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas, l'Éternel. Tu l'as établi pour le jugement, mon rocher, tu l'as acquis pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu le trait, gardes-tu le silence quand un méchant me dit, un plus juste que lui ?» Seigneur, tu ne peux pas accepter ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas possible. Mais c'est nous qui devons juger. Et c'est pas nous, surtout pas nous, qui devons envisager la solution. Ça va dans tous les sens, parce que quelque part, si je prie et que je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Je dois m'attendre à sa solution à lui. Et si je suis pratiquant ces choses, il y a une chose que je dois me mettre dans la tête, c'est que Dieu va intervenir. Et que quand il intervient, je ne peux pas me tourner vers Dieu, tu ne m'as pas averti. Dans Actes 17, verset 24-27, il est dit, si c'est Paul qui le souligne, il dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur la terre, sur la face de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et les bornes de leur demeure afin qu'ils cherchent. » Afin qu'ils cherchent Dieu. Comment ça se fait que nous qui cherchons Dieu, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre? Comment ça se fait que nous qui cherchons Dieu, on a finalement cette nature pécheresse, on a tellement de mal à s'en débarrasser, que finalement on finit par entendre des choses qu'on ne devrait pas entendre. Dieu est le Dieu de tout. Il est souverain sur toutes les nations. Il agit en eux, à travers eux, pour accomplir ses desseins. Habacuc, d'une interrogation sur ce qui semble une contradiction contre la sainteté de Dieu et le péché du monde, Habacuc a saisi clairement que Dieu est son rocher. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais j'ai confiance. Seigneur, tu as dit que tu allais intervenir et tu vas. Mais Seigneur, j'aimerais pas que tu interviennes chez moi. Donc le message que je reçois là, c'est que si ma position elle n'est pas bonne, et bien il vaudrait mieux que je la rectifie avant que ça me tombe dessus. Verset 12, nous ne mourrons pas éternellement. Tu l'as établi pour le jugement, pour rocher, tu l'as affermi, pour châtier. Habacuc a compris que Babylone allait être l'instrument de Dieu pour donner une correction à son propre peuple. Mais il y a une nuance importante, il sait que le peuple de Dieu ne disparaîtra pas. Le peuple de Dieu ne disparaîtra pas. Il ne sera pas anéanti par une telle armée, mais que c'est pour châtier que Dieu envoie, et pas pour détruire. Habacuc a peut-être fait le rapprochement avec la malédiction prononcée dans le Deutéronome. Dans Deutéronome 28, si vous allez. 28, verset 49-52, il est marqué, l'Éternel soulèvera contre toi de loin des extrémités de la terre une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'adolescent. Elle mangera le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tout soit détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni petit bovin, ni portée de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera partout où tu résideras, jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras placé ta confiance. Et cela dans tout ton pays. Elle t'assiégera partout où tu résideras et dans tout le pays que l'Éternel t'a envoyé. Mes amis, c'est dans notre vie, dans notre force, dans nos pensées, que nous nous réfugions, que nous nous confions. Sachant que ce n'est pas comme ça que Dieu envisage. Que ce qui doit transformer mon esprit, transformer mon existence, transformer mes relations, c'est ce livre. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. si nous sommes des gens schizophrènes, avec une double personnalité, chrétiens avec les chrétiens, dans le monde avec le monde, alors il faut se faire soigner. Le meilleur moyen de se faire soigner, c'est de se faire soigner. C'est de venir vers lui dans un esprit d'humilité, dans un esprit de repentance. Seigneur, je croyais. L'apôtre Paul croyait. En éliminant de la terre les chrétiens. Jusqu'à ce que ce Dieu, sur son chemin de Damas, avec ses lettres, qu'il avait des autorités, lui dise, hey, je suis celui que tu persécutes, arrête. Par contre, Habacuc comprend que Dieu ne peut pas voir, que Dieu ne peut pas supporter le mal. Il ne supporte pas l'oppression, il ne supporte pas la haine, il ne supporte pas la dérision. Ne supporte pas l'humilité. Nous sommes ses enfants. Et chaque enfant est précieux aux yeux de Dieu. Chaque. Il n'a pas sélectionné les bons et les moins bons. Ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui sont bien nourris, ceux qui sont mal nourris. Chaque enfant, quelle que soit sa couleur, sa nature, chaque enfant de Dieu est tellement précieux aux yeux de Dieu. Au verset 17. Habacuc demandait à Dieu s'il va laisser impunis les atrocités des Babyloniens. Sous-entendu, il comprend déjà la réponse, puisque non seulement Dieu est juste, il est jaloux, il n'accepte pas quiconque adore autre chose que l'Éternel, mais Dieu, il prend pour des péchés et on a déjà la réponse. On dit à Dieu, Dieu, tu es juste? Mais dans sa définition, Dieu est Dieu, tu es amour. Dieu, tu es tout puissant. On le chante, El Shaddai. Nous sommes conscients que notre Dieu, c'est ce Dieu-là. C'est celui qui ne peut pas voir un péché. Et quand on ne peut pas le voir, ça fait très bien. Mais que l'avoir devant ses yeux, c'est une chose. Et encore moins quand ils sont. Sommes-nous troublés par le péché, par le mal, par la violence qu'il y a autour de nous, au point qu'il y ait, comme Habacuc, Seigneur, juste. Et pas simplement dans le sens des autres, Seigneur, jusqu'à quand tu vas supporter que moi je dérape. Seigneur, s'il te plaît. On dit qu'avant d'aller balayer chez les autres, c'est déjà balayer chez nous. Quand on pointe quelqu'un, il y a toujours pas de droit qui brûle. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 17, il est marqué « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas le début, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Le jugement va commencer par chez nous. Dieu va commencer par sa maison avant d'aller par la maison des autres. Dans 2 Pierre 3,9, il dit « Ne se tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut qu'aucun périsse. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. » C'est les réponses à Habacuc. J'envoie de quoi vous châtier. Mais ce que Dieu veut, c'est que tout homme change. Tout homme, tout serviteur, dans Acte 39 à 41, il est dit, vous donc, frères, sachez-le bien, par lui le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde, qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, voyez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et dispersés, car je vais faire en vos jours une fois que vous n'oubliez pas, si on vous la raconte, tiens. Paul utilise exactement les mêmes mots que le prophète Habacuc, 700 ans avant pratiquement, 620. Dieu ne change pas, mes amis. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. L'avantage, maintenant nous sommes sous la grâce. C'est-à-dire qu'il a tout compris pour que nous vivions en relation étroite avec lui. Nous avons un choix. Croire Dieu, pas croire en Dieu.
Ça, c'est une carte où la majorité de la planète est suspecte du fait qu'il croit en Dieu. Donc, on croit que Dieu existe, mais ça ne change rien. Si je crois à Dieu, parce que je crois ce qu'il dit, je crois qu'il est. Et je crois que s'il a dit qu'il ferait, il fera. Nous avons le choix de croire en Dieu, vivre d'une manière qui le glorifie, ou nous attendre à ce qu'il intervienne dans notre vie, dans son Église. À la fin des temps, il est dit que voilà, il allait faire le ménage. Mes amis, nous sommes dans cette rencontre. Chaque jour, on nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas une petite nouvelle. C'est moi qui l'ai faite. Voici, maintenant, bientôt. C'est un texte que j'ai lu il y a 40 ans. On est 40 ans plus tard, donc je peux dire bientôt. Que Dieu nous aide à mettre notre vie en ordre. À mettre notre vie en ordre. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Parce que Dieu ne supporte pas la vie. Il aime ses enfants. Comme nous, nous n'aurions pas que nos enfants soient bafoués. Dieu a fait en sorte que notre vie soit en règle avec lui. Mais c'est lui qui a accompli le châtiment. Que Dieu nous aide.